Il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Référendum, proportionnel, septennat et j'en passe. Le téléphone sonne s'intéresse ce soir au projet des deux candidats à l'Élysée pour réformer les institutions. La question fait partie des débats de cet entre-deux-tours. C'est Marine Le Pen qui l'a remise sur la table en convoquant mardi à Vernon dans l'heure une conférence de presse consacrée à ce sujet. Elle en a profité pour répéter que si elle était élue le 24 avril prochain, sa première décision serait de soumettre à référendum un texte qui modifiera la Constitution, qui permettra d'élargir le champ du référendum et de graver dans le marbre le principe de la préférence nationale. Depuis, nombre de constitutionnalistes sont montés au créneau pour alerter sur ce qui pourrait ressembler, d'après eux, à un coup d'État institutionnel. On va voir avec nos invités ce qu'il en est. On reviendra aussi sur ce que propose Emmanuel Macron en matière institutionnelle. Une réforme avait été annoncée, amorcée même en 2017, mais elle n'a pas abouti. On se remettra en mémoire ce qu'elle contenait. Aujourd'hui, le président candidat se dit à nouveau favorable à la proportionnelle pour élire les députés. Reste aussi la question de la pratique du pouvoir, car notre malaise démocratique vient peut-être aussi de là. Avec nous pour aborder tous ces sujets, deux invités et un pensionnaire. Les invités sont tous les deux professeurs à Paris 1. Xavier Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public. Bastien François, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques, je précise, transparence oblige, que vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts, même si bien sûr, ce n'est pas ce qui vous amène ici ce soir. Je disais deux invités et un pensionnaire. Le pensionnaire, vous vous êtes reconnu, Thomas Legrand ?
Oui.
C'est vous, mais oui.
Hein.
Oui. Vous avez votre ronde serviette ici,
oui.
C'est normal. Alors si vous avez des questions, le standard vous attend.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous allons à Paris, tout simplement, retrouver Gaëtan. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir.
Êtes-vous là, oui ? Vous avez une question pour nos invités, Gaëtan ?
Oui, alors je me demandais en fait si les promesses des candidats à l'élection présidentielle ne sont-elles pas intenables ? Parce qu'en effet, les candidats à l'élection présidentielle, une fois élus, pour faire passer une réforme des institutions, doivent faire face au Sénat, étant donné que par article 89 de la Constitution, le Sénat prend sa part dans le Parlement pour voter les lois. Et si ce Sénat n'est pas un trop gros obstacle pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, étant donné qu'il est à majorité de droite et que pour le renouveler entièrement, il faut attendre 9 ans. Donc voilà ma question.
Merci Gaëtan pour cette question. Visiblement, vous avez déjà bien réfléchi au sujet. On va voir si le Sénat peut empêcher toute réforme institutionnelle. C'est une question que je vais vous poser. Allez, je vais commencer avec vous, Xavier Philippe, vous qui êtes professeur de droit public, parce qu'il y a différentes sortes de réformes institutionnelles. Est-ce que le Sénat peut tout empêcher ? Non.
Oui, alors quand il s'agit d'une révision constitutionnelle qui est fondée, comme le dit cet auditeur, sur l'article 89 de la Constitution, il faut évidemment que, et il a raison sur ce point, le projet de révision constitutionnelle soit adopté en termes identiques par les deux assemblées, donc par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire qu'avant même que le projet puisse être soumis soit à référendum, soit adopté par le Congrès à la majorité des 3/5, le Sénat donne son accord. Et dans le projet initial qui avait été imaginé par Emmanuel Macron, eh bien, le Sénat s'y est opposé. Alors, il faut aussi considérer que le Sénat peut avoir son mot à dire et que un projet de loi constitutionnel peut évoluer. Donc, il n'y a pas d'échec automatique. Mais il est vrai qu'un Sénat de droite qui s'opposerait à une révision constitutionnelle ou à un projet de loi constitutionnel qui serait présenté par le nouveau président pourrait en quelque sorte geler le processus comme ça a été le cas en 2017 et en 2018 et en 2019. À ceci près que un pouvoir de négociation existe. Alors ce n'est plus tout à fait vrai, le Sénat n'est plus élu tous les 9 ans, il y a eu une révision, les sénateurs sont élus pour 6 ans et un renouvellement pour moitié du Sénat aura lieu en 2023. Alors, il s'agit de savoir si cette nouvelle majorité en 2023 permettrait une révision constitutionnelle ou pas.
Est-ce qu'on peut juste rappeler, je ne sais pas si c'est Thomas Legrand ou Bastien François, pourquoi le Sénat s'était opposé à la révision qui était prévue par Emmanuel Macron au début du quinquennat, Thomas ?
Ah bah, il n'était pas d'accord sur ce qu'il fallait faire. En fait, pour réviser la Constitution, souvent, la dernière fois que ça a été fait de façon importante en 2008, Nicolas Sarkozy avait avait fait, alors il avait la majorité au Sénat, mais il avait fait une, ce qu'on appelle la commission Balladur, présidée par Édouard Balladur, et Édouard Balladur avait réuni une commission qui réunissait tous les partis, et ils avaient établi comme ça un accord, une sorte de consensus. Les socialistes n'étaient pas d'accord, il y avait quelques socialistes, dont Jack Lang par exemple, ancien professeur de droit public d'ailleurs, on l'oublie souvent, qui était d'accord et qui a permis que les 3/5 au Congrès. Donc je rappelle le Congrès, vous avez parlé du Congrès, le Congrès c'est à Versailles, on réunit les sénateurs et les députés, ça fait 900, un peu plus de 900 parlementaires.
C'est le Congrès.
Et là, dans le cadre de l'article 89, c'est la deuxième phase. Et si on n'utilise pas le référendum, il faut réunir le Congrès. Et là, il faut les 3/5. Donc, il faut du monde. Donc, généralement, quand on change la Constitution, le mieux, c'est de faire comme Nicolas Sarkozy avait fait, réunir le plus de monde possible et essayer de trouver des accords. C'est ce que prévoit de faire Emmanuel Macron. Il a dit qu'il élargirait même au-delà des groupes parlementaires représentés, qu'il prendrait une population politique très très large pour essayer de dégager un consensus. Mais il y avait un contexte, pendant ce quinquennat, un contexte politique de défiance envers Emmanuel Macron qui faisait que la droite sénatoriale ne voulait pas accéder aux volontés de réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron.
Bastien François Wauquiez, professeur de sciences politiques.
Oui, c'est-à-dire, mais en tout cas, une réforme constitutionnelle, c'est toujours des compromis, c'est toujours des discussions, et il y arrive qu'on rajoute dans le projet des choses que ne voulait pas le président. Par exemple, dans la réforme de 2008 dont on parlait, il n'y avait pas le référendum d'initiative partagée. Bon, c'est les parlementaires qui l'ont imposé. Donc, en réalité, c'est une opération longue et compliquée politiquement, et c'est normal quand même. Hein, c'est la norme fondamentale, donc c'est normal qu'on en discute, que se construisent des compromis. Il y a d'ailleurs, à la seconde étape, c'est-à-dire une fois que le vote est acquis à l'Assemblée nationale et au Sénat en termes identiques, ben on va au Congrès où là il y a une majorité qualifiée, il faut les 3/5. Donc il faut aller au-delà de sa majorité. C'est vrai pour tout le monde. Hein, bon. Alors évidemment c'est plus difficile quand c'était la gauche qui était au pouvoir, aux manettes, hein, parce que le Sénat était toujours de droite. Donc là c'était vraiment difficile d'obtenir les 3/5. Mais quand...
Mais des réformes, il y en a eu.
Et il y en a eu.
Il y en a eu au moins une vingtaine de fois depuis le
24. Voilà. Bon, beaucoup moins à gauche qu'à droite. Hein. Bon.
Souvent, c'est des ratifications de traités internationaux, donc ça pose moins de problèmes.
Voilà. Mais 24. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a une discussion, et dans tous les cas, le Sénat essaye de tirer son épingle du jeu parce que le Sénat sait très bien qu'il est en position de, disons, d'avoir une sorte de veto, hein, et donc le Sénat en profite chaque fois pour obtenir des petites bricoles. Qui vont dans son sens, on va dire.
Alors on peut voir les choses de cette façon-là. On peut se dire aussi que le Sénat, ça peut être aussi un garant d'un certain nombre de principes, et qu'après tout, ben on en revient à ce que nous disait Gaëtan, on peut rien faire sans le Sénat. Mais peut-être que le Sénat, c'est aussi la garantie de ne pas faire n'importe quoi.
Légiférer de la même façon qu'on change la Constitution. Il faut que la procédure soit plus compliquée. Enfin. On peut demander à nos invités qui sont plus qualifiés que moi pour le dire, mais ça ne peut pas être pareil. C'est pour ça que l'article 11 et l'article 89, on pourrait peut-être y revenir, sont différents, sont des procédures différentes. Ça doit être plus compliqué, plus contraignant de changer la loi fondamentale.
Alors, puisqu'on y est, allons-y. Sur l'article 11, Xavier Philippe, faites-nous un petit cours de droit là sur la différence entre l'article 89 dont on vient de parler et l'article 11.
Alors, très simplement, l'article 11 est un article qui permet au pouvoir exécutif, alors il a changé de contenu au cours de la vie de la Constitution de 1958, mais qui permet au pouvoir exécutif, voire même au pouvoir législatif, de proposer sur un certain nombre de matières qui sont déterminées dans cet article, essentiellement l'organisation des pouvoirs publics, mais il y en a d'autres qui ont été rajoutées, de soumettre à un référendum un projet ou une proposition de loi qui est adoptée, cette fois-ci donc non pas par le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, mais par le peuple, par le corps électoral. L'article 89, c'est celui qui figure dans le titre de la Constitution qui est intitulé « Révision de la Constitution » et qui institue la procédure de révision de la Constitution. Alors, ces deux articles, on le voit, ont des champs différents, Mais l'histoire de notre Constitution a fait qu'en 1962, le général de Gaulle s'est servi de l'article 11 pour réviser la Constitution lorsqu'il s'agissait de changer le mode de suffrage de l'élection du président de la République, du suffrage universel indirect au suffrage universel direct. Ce qui avait créé une controverse à l'époque, sans rentrer dans le détail, parce que je pense que nous aurons l'occasion de le revoir ensuite, cette controverse s'était éteinte d'elle-même, puisque plus aucun président de la République, à part le général de Gaulle, n'avait recouru à l'article 11 pour réviser la Constitution. Toutes les révisions de la Constitution ont eu lieu par le canal de l'article 89, qui, je vous le rappelle, normalement doit donner lieu à une approbation par voie référendaire également. Ça n'est qu'exceptionnellement que la réunion du Congrès, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, doit être faite sur la majorité de 3/5.
Alors on va voir dans un instant pourquoi on se focalise à ce point ce soir sur ces deux articles, parce que c'est évidemment en raison des projets de Marine Le Pen, mais on va repasser par le standard de France Inter, retrouver Denis qui est dans l'Essonne. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Vous avez des questions à propos des référendums justement ?
Oui, je me pose la question sur l'intérêt d'un référendum, sachant que, il me semble, pour pouvoir répondre à un référendum, il faut avoir étudié un peu le problème, faire des études. Je ne sais pas si une majorité des Français a la capacité de répondre correctement à un référendum. Il me semble que les Anglais, par exemple, se mordent un peu les doigts après avoir accepté le Brexit. Ils ne s'étaient pas rendus compte de tout ce que ça allait amener derrière. Donc, est-ce qu'un référendum, c'est vraiment quelque chose d'utile au niveau de la démocratie, sachant qu'on n'est pas forcément capable d'y répondre correctement?
Oui. Merci Denis pour cette question, Bastien François.
Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
Est-ce qu'on est assez intelligent pour dire oui ou non?
Je pense qu'on est assez intelligent pour dire oui ou non. Après, tout dépend de comment se construit une campagne électorale autour de ce référendum. Après tout, nous avons voté en 2005 pour un traité établissant une constitution pour l'Europe extraordinairement compliqué. Ils se sont emparés du débat, ça a discuté. Alors peut-être pour nous, juristes, la discussion était parfois un petit peu curieuse, un peu baroque, mais ça veut dire qu'on a discuté de ce que c'était que l'Europe, ce qu'on voulait de l'Europe. Le résultat était négatif, je le dis avec d'autant plus de tranquillité que j'étais très favorable à ce traité, à titre personnel, mais on s'est emparé de cette question. Alors, il est vrai que, généralement, dans un référendum, on a intérêt quand même à essayer de poser une question assez simple, sur laquelle on puisse débattre assez simplement. Il est vrai aussi, une des difficultés du référendum, qui ne tient pas à son contenu, c'est que souvent on va voter pour une autre raison que la question posée, et souvent on va voter pour ou contre la personne qui a posé la question.
Et le risque plébiscitaire, c'est le général de Gaulle qui avait un peu instauré ça.
Exactement, et d'ailleurs, le général de Gaulle l'a payé, d'une certaine façon.
En
69. Bon. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué le référendum, parce que le référendum, on répond par oui ou par non. Et très souvent, dans la vie, la vie est un petit peu plus compliquée que des réponses de type binaire.
On va revenir sur ces questions de référendum, mais on va prendre Gabriel, qui est au standard et qui attend pour la traite des chèvres. Non, mais excusez-moi, beaucoup plus important que ce que nous sommes en train de faire. Bonsoir, Gabriel. Gabriel.
Ça a commencé. J'entends le.
Je pense que... Gabriel, êtes-vous là ?
Le tabouret de la traie.
Bon, je pense qu'on a perdu Gabriel. On m'a fait signe qu'il fallait se dépêcher, mais j'ai eu beau me dépêcher, j'ai pas réussi, je suis pas allé assez vite. J'en suis absolument désolé. Peut-être qu'on le retrouvera un petit peu. Un petit peu plus tard. Allez, on va revenir sur le référendum puisqu'on a perdu Gabriel. Sur la question du projet de Marine Le Pen. Soyons concrets. Elle nous explique que si elle est élue le 24 avril, elle veut soumettre à référendum un texte qui instaure la préférence nationale. Xavier Philippe, c'est possible ou c'est pas possible?
Alors, oui, c'est possible si elle utilise la bonne procédure.
Elle veut court-circuiter le Parlement. Elle se dit qu'elle n'aura jamais l'approbation des deux chambres pour mener une réforme dans ce cadre-là.
Alors, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je ne peux pas me prononcer. Je ne vois pas pourquoi elle se prononce de cette façon à ce jour, puisque si elle veut réviser la Constitution, la voie qui est préconisée, c'est le canal de l'article 89.
Mais qui peut lui dire non au fait d'utiliser l'article 11?
Elle dit qu'elle veut passer par l'article 11. Donc, est-ce que c'est possible ou pas?
Logiquement, si on lit la Constitution, non. elle est obligée de passer par cet article 89. Alors, il y a évidemment le précédent de 1962 qui peut fournir une sorte de précédent dans lequel elle pourrait justifier ce recours à l'article 11, mais je pense que nous ne sommes plus dans les conditions de 1962.
Et Bastien François, oui, vous nous disiez tout à l'heure, avant l'émission, que la discussion du Conseil, le délibéré du Conseil constitutionnel à l'époque, qui était largement composé de gaullistes, hein, vient d'être rendu public. Et à l'époque,
ce qui vient d'être rendu public, c'est l'avis qu'avait donné officieusement le Conseil constitutionnel au général de Gaulle, où le Conseil constitutionnel disait au général de Gaulle, non, c'est pas possible de faire cette révision. La délibération, on la connaît depuis un petit peu, un peu plus. Je pense qu'en tout cas, à l'époque déjà, enfin, l'immense majorité, mais quand je dis l'immense majorité, c'est vraiment presque tout le monde. Il y a quelques personnes près, l'immense majorité des professeurs de droit étaient allés dans ce sens-là. Bon.
Mais pour en revenir à la situation d'aujourd'hui, imaginons Marine Le Pen élue le 24 avril.
Imaginons. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un référendum ? C'est un décret. C'est plusieurs décrets. C'est un décret qui va convoquer des électeurs, c'est un décret qui va dire sur quoi va porter le référendum. Le Conseil constitutionnel, la Constitution nous le dit, est le garant des opérations du référendum. Donc le Conseil constitutionnel va être saisi de ce décret. Bon. Et le Conseil constitutionnel va examiner ces décrets. Bon. Et il va s'appuyer là-dessus. Il s'est déclaré compétent dans une décision de 2000, qu'on appelle Hochmeil, du nom de la personne qui avait saisi
le Conseil constitutionnel. Que nous a fait connaître
Thomas Legrand. C'est devenu une star.
Et donc, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le constat que Xavier Philippe faisait, que tous les juristes font actuellement. C'est-à-dire qu'il va, il va regarder le texte que propose Marine Le Pen. Il va pas se prononcer sur le texte au fond. Hein, il va dire simplement, ce texte ne rentre pas
dans
le cadre de l'article 11. Il nécessite de passer par l'article 89, et donc il n'y aura pas de décret. Bon, alors, on pourrait continuer. Imaginons que Marine Le Pen signe quand même un décret. C'est jamais, hein, tant qu'on y est.
Et organise.
Bon. Voyons si les institutions sont suffisamment solides.
N'importe quel quidam dans la rue pourrait saisir le Conseil d'État pour faire annuler ce décret, et en référé, le Conseil d'État pourrait annuler ce décret. Alors, vous voyez, le problème, c'est que quand on commence à violer la Constitution, il n'y a plus de limite. Il y a des limites qui sont les juges, mais évidemment, on peut toujours imaginer qu'on ne respecte pas les juges.
Hein, bon. Et même après cet avis du Conseil d'État, on peut imaginer qu'elle décide de demander au préfet d'organiser techniquement. Alors là, on rentrerait dans l'illibéralisme. Et c'est pour ça que cette question est très importante, parce qu'elle est bien plus politique que juridique. C'est-à-dire que moi, je pense que quand Marine Le Pen et quand le Front National ont imaginé cette procédure, soit ils pensaient que le souvenir du général de Gaulle suffirait, soit ils pensaient qu'ils s'en serviraient pour faire une sorte d'épreuve de force entre les juges et les journalistes, bref, le système et le peuple qu'elle représenterait. C'est ce qui se passe dans tous les pays libéraux, c'est ce qui se passe en Hongrie, il se passe des choses comme ça, en Pologne, en Russie, j'en parle même pas, il se passe des frictions entre la société civile, soi-disant le peuple, et puis les institutions.
Donc c'est un test pour notre
démocratie. Il faut tout de suite dire non, c'est pas possible.
On a retrouvé Gabriel. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir.
Ça se passe bien avec les chèvres ?
Oui, ça va.
Bon,
bien.
Allez, une petite pause pour poser une question.
Alors ma question était, voilà, comment se fera le mode de scrutin pour l'élection partielle des députés à la proportionnelle ? Parce que, bon, étant ancien élu d'une commune, on avait une proportionnelle, ce qu'on appelle partielle. Ça veut dire que quand la liste était élue, on va dire la moitié de ceux qui arrivaient en majorité raflaient la moitié des sièges, et le calcul de la proportionnelle était fait sur la moitié des sièges restants. Donc pour un député, alors qu'il y a un seul député par circonscription, comment faire ?
Merci beaucoup, Gabriel. Restez quelques secondes ou branchez la radio, tout simplement, si vous avez plein d'autres choses à faire. On va vous répondre. Allez, c'est Sébastien François qui va vous répondre sur
ce point. Oui, la proportionnelle, là, dans le cas dont on parle, c'est une proportionnelle où il y a une prime majoritaire. Pour les élections municipales, hein, la liste arrivée en tête a une prime majoritaire pour être assurer qu'il y ait une majorité dans les communes. Hein, bon. Pour les législatives, si on devait instaurer la proportionnelle, on devrait sortir du mode de scrutin uninominal, c'est-à-dire qu'il y a un élu par circonscription, et on devrait passer à un scrutin de liste. Donc on devrait agrandir les circonscriptions, par exemple en 1986.
C'est ce qui a été fait.
Ce qui a été fait, mais donc la circonscription c'était le département. On pourrait avoir aussi une circonscription qui soit...
Il y avait tant de députés, voilà. Il y avait des listes.
Voilà, des listes.
Chaque département un nombre égal de
chaque département députés, avait, par exemple, imaginons 5 députés. Et en fait, ça variait selon la taille du département. Bon, mais disons, pour que ça soit simple, donc on devait, chaque parti, présenter des listes de 5 personnes. Et après, à la proportionnelle du résultat, on attribuait les sièges.
C'est donc, ce qui se passe pour les élections européennes, ce qui se passe...
Exactement. Donc, si on devait instaurer la proportionnelle pour les législatives, on devrait passer à un scrutin qu'on appelle de liste. On va voter sur des listes dans des circonscriptions. Alors après, il faut une des difficultés, c'est de savoir dans quelle est la circonscription qu'on choisit. Et parce que ça a des effets. Plus votre liste est grande, plus ça proportionnalise. Si vous êtes sur des petites listes dans des départements, il y a peu d'effets de la proportionnelle. Si vous êtes sur des listes nationales, il y a beaucoup d'effets. Bon. Voilà.
Et pour ça, Xavier Philippe, il n'y a pas besoin de changer la Constitution. On est d'accord.
Non. Le mode de scrutin est quelque chose qui est organisé par une loi organique. Donc, il n'y a pas besoin de changer la Constitution. J'ajoute que quand on parle d'un mode de scrutin à la représentation proportionnelle, ce qui est assez simple à comprendre, vous récoltez le nombre d'élus au prorata des voix que vous obtenez, mais il y a 1000 façons de le calculer. Il y a toute une possibilité, il y a une possibilité infinie de combiner du scrutin à la représentation proportionnelle majoritaire. Et quand on fait des projections, on se rend compte que ça n'est pas parce que vous avez un scrutin à la représentation proportionnelle, comme vient de le rappeler Bastien François, que vous n'avez les mêmes résultats uniquement parce que vous changez de mode de scrutin.
En tout cas, Marine Le Pen souhaite la proportionnelle, c'est parce qu'elle s'est bien rendue compte que, par exemple, je prends le cas des européennes, c'est quasiment la première délégation qui arrive au Parlement européen, le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National. Évidemment que actuellement à l'Assemblée française, elle a
beaucoup de forces
beaucoup
politiques
moins de monde.
Sont favorables à la proportionnelle. En réalité, ça peut être aussi bien les écologistes, c'est le MoDem, etc.
Emmanuel Macron a dit qu'il n'y était pas opposé.
De plus en plus à droite. Alors, aussi. D'ailleurs.
Il vient de dire qu'il n'y était pas opposé. Parce que
intégral en plus, il a dit intégral.
Alors intégral, encore une fois, je vais dans le sens de Xavier Philippe. Il faut faire attention parce que on va dire intégral, mais on peut mettre plein de...
Oui, ça pourrait être national, par exemple. En fait, la vraie proportionnelle...
On peut mettre, par exemple, des seuils d'accès. C'est-à-dire, par exemple, il faudra avoir 10% pour avoir un député. Ça joue beaucoup le seuil d'accès. Par exemple, entre 5% et 3%, ça fait très grande différence. On peut mettre aussi des petites primes majoritaires. On peut inventer des systèmes majoritaires. On peut même le faire sur 2 tours. Voilà. Donc il y a plein de possibilités.
On peut faire une circonscription nationale.
On peut faire une
seule liste. Voilà. En fait, la vraie proportionnelle, la plus égalite, la plus juste, intégrale. Ça serait la proportionnelle intégrale et avec une liste nationale. Et après tout, on dit bien que le député, c'est pas un élu local, c'est député de la nation. Si on voulait retrouver vraiment de la politique, il s'agirait plus d'élire un député de telle ou telle région, parce qu'en fait, les députés sont élus par des circonscriptions, par des terres d'élection, mais une fois qu'ils sont élus, normalement, ils sont élus de la nation.
Mais attention à l'éparpillement aussi.
Et là, on va vous dire qu'ils sont hors sol. Ça va
on va dire qu'ils sont hors sol. Voilà. Mais alors, soit on fait de la... Oui, mais...
Non, il n'y a pas de mode de scrutin parfait. Hein.
Juste une toute petite incise là-dessus. Jacques, qui est à Lyon, nous dit effectivement, Emmanuel Macron avait commencé à vouloir mettre en place la proportionnelle. C'est pareil, ça s'est perdu.
Une dose de proportionnelle.
Le Sénat ne voulait pas, parce que le Sénat...
C'est le Sénat. D'accord, ok.
Non, et puis il y a eu l'affaire Benalla.
Ça
a été un peu compliqué. L'année 2018 était un peu compliquée sur le plan constitutionnel pour le président de la République.
Nous partons dans l'Isère, à Saint-Marcellin. Fabien est au bout du fil. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonjour. Oui, donc ma réflexion, ma question, c'est est-ce que les pouvoirs centraux du président de la République, qu'il décide toujours tout seul, qu'il n'écoute jamais personne, on a vu avec le dernier quinquennat, les personnes n'étaient pas écoutées. Est-ce que ça favorise l'extrême droite? Est-ce que, tout simplement, n'est-ce pas le pouvoir du président de la République qu'il faut largement diminuer pour, entre autres, avoir une défense européenne qu'il soit plus chef des armées et qu'il ne soit plus à l'origine de toutes les lois.
Merci Fabien pour cette question que je vais soumettre à Bastien François. Tiens, le président de la République actuel a-t-il trop de pouvoir ? Peut-être déjà d'après nos institutions. Après, il y a la pratique politique.
Il a beaucoup de pouvoir, déjà. Enfin, ce président de la République, il n'a pas été conçu pour gouverner.
Mais dans les faits, il
gouverne. Bon. Et de façon presque parallèle à la Constitution. C'est-à-dire que l'article 20 de la Constitution dit « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Tous les Français savent que c'est pas le gouvernement qui détermine la politique de la nation, c'est le président de la République. D'ailleurs, ils l'élisent pour ça. Bon. Donc, nous mettons énormément d'espoir en même temps dans notre président, lorsque nous les lisons. Bon. Nous avons un président qui, au regard des autres chefs de pouvoir gouvernants en Europe, est extraordinairement puissant.
Ça veut dire, si je peux poser la question de Fabien autrement, Xavier Philippe, notre constitution est-elle déséquilibrée ? Oui.
Alors. Elle s'est modifiée, elle s'est transformée au fil de son existence. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Bastien François, à l'origine, il y avait un rôle du président de la République qui devait être celui d'un arbitre. Le premier titulaire, le général de Gaulle, en a fait tout autre chose, et ses successeurs ont amplifié le processus. Alors, il est vrai que la personnalité de chaque président de la République sous la Ve République a pu donner l'impression que certains présidents étaient plus partageurs que d'autres avec le Premier ministre, mais d'une façon générale, si on regarde les trois derniers quinquennats, on peut constater qu'il y a eu quand même un renforcement des pouvoirs du président de la République, à tel point qu'à un moment, on avait imaginé de faire du Premier ministre un vice-président. Donc, alors quand on regarde d'ailleurs un peu à l'extérieur de chez nous, il est toujours intéressant de faire du comparatisme, on se rend compte que ce problème n'est pas nécessairement propre au régime français et même au régime semi-présidentiel tel qu'est le nôtre. Aujourd'hui, vous avez par exemple en Grande-Bretagne des mêmes voix qui s'élèvent contre l'hyper-pouvoir du Premier ministre Boris Johnson. Donc, vous voyez que ça n'est pas nécessairement le régime politique qui est à l'origine de cela.
Je vais compléter avec une réponse un peu plus politique, parce que en fait, le Boris Johnson ou le chancelier allemand ont effectivement beaucoup de pouvoir, mais ils sont responsables devant leur parlement et ils sont issus. L'exécutif procède du parlement et le parlement peut les renverser. Ils ne peuvent pas renverser le parlement. Et du coup, d'un point de vue politique, c'est très important parce que le président de la République en France ne va jamais devant le Parlement. Il fait ce qu'il veut d'un point de vue de la communication. Il vit pendant tout son mandat dans une sorte de monologue assez sécurisé, ce qui donne une impression de gouverner seul et qui nourrit l'espèce de tradition régicide qu'on a, qui fait que certains détestent le président, mais c'est pas simplement Emmanuel Macron. Les autres, ses prédécesseurs étaient aussi détestés par une frange de la population. Or, toutes les semaines, Boris Johnson, il doit aller devant les parlementaires de l'opposition et il parle et pied à pied, il défend. Il doit s'expliquer. Pareil pour le chancelier allemand. Et en France, il n'y a pas ça. Ça donne cette impression de déséquilibre et je trouve que c'est de ce point de vue-là, c'est un effet politique que peut-être les rédacteurs de la Constitution n'avaient pas mesuré, mais c'est amplifié en plus par l'écosystème médiatique de l'information continue dans lequel nous vivons.
Bastien François, je vais vous donner la parole, c'est promis, mais on va repasser par le standard parce que Philippe a une question qui va un peu rejoindre, j'imagine, ce dont on est en train de parler. Bonsoir Philippe, vous êtes à Bordeaux.
Oui, oui, bonsoir, c'est Fabienne Saint-Esprit.
C'est clair, mais c'est pareil, merci. Allez, c'est vendredi.
C'est clair, pardon, mais en tout cas, merci pour la qualité.
Quand vous m'entendez, c'est que c'est le week-end, allez, c'est une bonne nouvelle, non?
C'est à toutes les deux, voilà. Allez, vos équipes. Oui, effectivement, en intervention, rejoins ça. J'avais voté pour le quinquennat lors de la réforme. Rétrospectivement, je considère que c'est une erreur. Le sentiment que, dans la crise qui est actuellement un peu politique, de régime, de perte de confiance dans le pouvoir politique et dans les partis, le fait qu'il n'y ait plus finalement une séparation claire entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, du fait que finalement la dissolution de l'Assemblée est devenue quasiment impossible avec le quinquennat, et il y a une réforme qui n'est pas allée jusqu'au bout. Et donc la médiatisation, la personnalisation, c'est qu'on ne reconnaît plus qu'une seule personne, le président, ça personnalisateur au-delà des idées. Et finalement, on n'a plus les débats. On n'a peut-être pas autant les débats devant l'Assemblée nationale et la possibilité de remettre les choses en...
Merci.
Alors, avec une dissolution des assemblées.
Merci,
et
Philippe.
Donc, est-ce qu'il faut parvenir à un septennat qui t'avait limité à deux fois?
Merci, Philippe. Eh ben, c'est une bonne question puisque les deux candidats, enfin en tout cas Marine Le Pen est pour, Emmanuel Macron dit qu'il n'est pas contre.
Emmanuel Macron et dit qu'il n'est pas contre deux septennats... simplement, et Marine Le Pen, un seul septennat, mais il veut des mi-termes. Enfin, on va pouvoir détailler ça avec nos
Bastien invités. François, c'est vous qui avez la parole pour répondre à Philippe.
Oui, mais je vais rebondir sur ce que disait Thomas Legrand pour arriver sur la question de Philippe. Je pense que Thomas Legrand, il a dit la chose importante. La grande différence entre les autres démocraties européennes et nous, c'est que dans les autres démocraties européennes, le chef réel du pouvoir gouvernant est responsable. Vraiment, il doit rendre des comptes au quotidien ou pratiquement devant un Parlement. Nous, c'est pas le cas. J'en arrive à la question du septennat. Mais je crois qu'on est en train de se tromper dans cette discussion. Parce que le problème n'est pas l'élection du président de la République, ni la durée de son mandat. 14 des 27 pays de l'UE ont un président de la République élu au suffrage universel direct. Donc c'est pas ça qui fait la toute-puissance du président.
Peu d'entre eux ont autant de manettes que le nôtre.
Il y en a qui ont pas mal de manettes, hein, et en particulier en matière de politique étrangère. Mais... notre problème, c'est la conception du pouvoir, ce qu'on nous mettons dans le président de la République. Et ça, c'est très difficile à réformer. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez, Nicolas Sarkozy, il a fait une très grande réforme en 2008. Et c'était quoi son projet à l'origine? C'était de rééquilibrer la Ve République. Il n'a pas réussi, en fait. Mais pourquoi il n'a pas réussi? Non pas parce qu'il n'avait pas la volonté, tout simplement, c'est qu'il faut réformer une culture. Et réformer une culture politique, qu'est-ce que ça veut dire une culture politique? Ça veut dire que n'importe quel homme politique un peu ambitieux aujourd'hui, ou femme politique, bah, veut être président de la République. Pour les enfants dès l'école, bah, c'est le sommet, etc. Bon. Donc, que le Parlement...
C'est notre côté monarchique, quoi.
Je dirais pas monarchique. Il n'y a même pas besoin de penser non monarchique.
Est-ce qu'il faudrait revenir, par exemple, à l'esprit de 58 et à la méthode de 58, où le président élu par un grand collège de 80 000 notables serait un arbitre et n'aurait pas le poids de la légitimité populaire, et du coup le premier ministre responsable lui devant le Parlement serait plus important.
Là ça va être la révolution.
Personne ne le veut, mais
on peut faire des choses beaucoup plus simples. On inverse le calendrier électoral. Oui. Vous mettez les législatives un mois avant la présidentielle.
C'est... Et les Français seront cohérents. Et
Thomas, qui est au bout du fil en Alsace, a justement une question à ce sujet. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Allez, c'est à vous.
Justement, il y avait la 4e République qui était très parlementaire. De Gaulle a voulu quelque chose de plus présidentiel. Mais actuellement, là, on sent que les législatives vont être justement là où les gens s'expriment davantage sur direction politique on va prendre. Et justement, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à... Quelles seraient les conséquences de mettre les législatives juste avant les présidentielles et pas l'inverse?
Merci beaucoup Thomas, Xavier, Philippe, Bastien Thomas, Bastien François, j'y arrive. Vous avez tous des prénoms.
On appelle tous avec des prénoms.
C'est devenu très compliqué là.
C'est vrai que c'est compliqué. En fait, c'est assez simple. Les législatives arrivent derrière la présidentielle. Les Français, ils élisent un président, bah, ils vont être cohérents, ils vont élire une majorité qui va... Bon. Et ces députés-là, ils vont être disciplinés parce que au bout de 5 ans, quand ils vont se représenter, il faut qu'ils soutiennent le président, parce que si leur président sur lequel ils... Voilà. Donc là, si vous mettez les législatives avant, nous connaîtrons la majorité avant. Donc l'élection président dépendra de l'élection législative, en réalité, dans la tête des bon. Donc inverser le calendrier, c'est pas un hasard, hein, si on a remis le calendrier juste après, si Jospin et Chirac se sont entendus pour qu'on mette le calendrier des législatives derrière la présidentielle. C'était pour assurer au président de la République une majorité qui ne serait pas assurée dans le cas inverse.
Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on aborde quand même le RIC, parce que c'est le sujet qui a occupé bon nombre de gilets jaunes et Marine Le Pen porte aussi en étendard ce référendum d'initiative citoyenne, c'est ça?
Tout à fait.
Xavier Philippe, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence avec ce qui existe aujourd'hui, le référendum d'initiative partagée? Quel serait l'avantage?
Alors, le référendum d'initiative partagée, le RIP, hein, qui est de même acronyme que Rest in Peace en anglais, et qui n'a jamais d'ailleurs pu aboutir.
Même s'il y a eu une tentative sur l'hôpital, en tout cas.
Le mécanisme était assez... Enfin, l'idée qui était derrière, c'était tout simplement de permettre à une initiative parlementaire d'être ensuite soutenue par une partie de la population, une forme de pétition qui soit suffisante, mais qui nécessitait près de 5 millions de signatures pour que l'on puisse ensuite aboutir soit à une adoption parlementaire, soit à une adoption par voie de référendum. Si vous n'avez rien compris, c'est que vous avez bien compris ce qu'était le RIP, c'est-à-dire c'était un mécanisme qui faisait intervenir plus ou moins la population, mais qui
était trop lourd
pour pouvoir être mis en œuvre.
Marine Le Pen propose un RIC avec 500 000 signatures.
Voilà, alors le référendum d'initiative citoyenne, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui existe par exemple en Suisse, c'est la possibilité pour une partie de la population, une partie des électeurs, de, par voie de pétition, faire remonter un projet. Alors, c'est quand même assez compliqué, même si ça apparaît beaucoup plus simple que le premier.
Il y a des filtres.
Et qui permettait. Pardon ? Et voilà. Et il y a un certain nombre de filtres qui expliquent que ce référendum d'initiative citoyenne, pour qu'il puisse être soumis à opération électorale, eh bien, puisse se dérouler.
Bastien François, ce serait une façon de faire respirer la démocratie un petit peu de temps en temps sur certains sujets ou pas ?
Oui, mais c'est compliqué à. Enfin, moi, je serais favorable, mais je pense que. D'ailleurs, c'est intéressant. Il n'y avait pas que Marine Le Pen. Pratiquement tous les candidats à la présidentielle défendaient. La seule chose, c'est qu'il faut réfléchir à sur quoi ça peut porter. Il faut réfléchir à comment on contrôle la question posée, parce qu'on risquerait de faire adopter des textes contraires à la Constitution ou aux droits fondamentaux. Il faut réfléchir au bon nombre de signatures. Et éventuellement, il faut réfléchir à essayer d'articuler ce référendum d'initiative citoyenne, par exemple, à un temps délibératif.
Voilà.
C'est ce que proposait Terra Nova dans une note il y a quelques années. L'idée étant que plutôt que ça soit une question posée, on répond par oui ou par non.
Et puis une fois le vote terminé, fini,
voilà, on réunit une convention, une sorte de petite convention citoyenne qui définit tous les arguments pour et contre,
et qui permet de
nourrir un débat pour qu'on sorte justement de la logique un petit peu plébiscitaire ou acclamative.
En fait, on peut allier la démocratie directe que tout le monde comprend et que tout le monde veut avec la démocratie participative qui est très compliquée, que tout le monde veut aussi, mais que personne n'arrive à définir. Si on arrive à allier les deux en faisant des conférences de consensus, par exemple, qui feraient le tour de France avec où on réfléchirait à une question, ou des citoyens tirés au sort ou pas, réfléchiraient à une question. Et cette question issue de cette réflexion collective, délibération collective, serait soumise aux citoyens. Là, on aurait les deux bouts de la chaîne et la démocratie respirerait mieux.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thomas Legrand, merci beaucoup Bastien François, merci beaucoup Xavier Philippe et à tous ceux qui nous ont appelés. Bonsoir Patricia Martin.
Bonsoir Claire Servageon.
Quel programme pour l'heure philo.
Nous allons parler de la cause animale.
Oula, vous allez avoir beaucoup de succès. Mon petit doigt me dit ça. Merci Patricia,
merci à
tout de suite.